Spotkania europejskie.
Rozumiem da Europa.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. La Grèce et le Portugal ont bien des points en commun. Ce sont deux pays de l'Europe du Sud à la population comparable qui ont connu par le passé des dictatures et pour lesquelles l'adhésion à l'Union Européenne a été décisive. Plus récemment, les deux pays ont durement subi la crise de 2008-2009 et ont été sous l'emprise de la Troïka. La Grèce comme le Portugal ont retrouvé depuis, avec quelques différences, une certaine santé économique. Originalité dans une Europe dominée par la droite, Athènes comme Lisbonne avaient porté au pouvoir des gouvernements de gauche. Mais lors des dernières élections, la Grèce est passée à droite tandis que le Portugal restait à gauche. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Tomáis Papaioannou. Kalimera, Kalispera.
Kalispera.
Vous êtes correspondante à Paris de la télévision grecque. Yves Léonard, bonjour. Vous êtes historien, enseignant à Sciences Po Paris et co-auteur de Histoire du Portugal aux éditions Chandaigne. C'est l'un des livres que vous avez écrit et publié aux éditions Chandaigne. C'est le dernier. Histoire du Portugal
des origines
jusqu'à aujourd'hui. Antonio Costa Pinto, bon dia, boa tarde.
Bon dia.
Vous êtes professeur de sciences sociales à l'Université de Lisbonne. Merci d'être en ligne de Lisbonne, la capitale du Portugal. Et à Athènes, nous rejoignons Fabien Perrier. Bonjour Fabien.
Yassas.
Yassas, correspondant en Grèce pour Libération et pour le quotidien suisse Le Temps. Vous venez de publier Alexis Tsipras, une histoire grecque aux éditions François Bourin. Vous êtes évidemment en ligne d'Athènes. Alors, c'est plus qu'une biographie d'Alexis Tsipras, c'est une brève histoire de la Grèce à travers son dernier grand leader qui est donc Alexis Tsipras. Hein.
Tout à fait, c'est même le sous-titre, Alexis Tsipras, une histoire grecque. Mais pour faire une petite confidence, il n'est pas encore tout à fait sorti en France puisqu'il sort le 7 novembre.
C'est imminent.
Voilà, c'est imminent. En revanche, l'idée était de trouver un personnage qui essaie d'incarner au mieux cette histoire grecque, le rapport de force dans lequel la Grèce a été placée de la fin de la dictature des colonels jusqu'à aujourd'hui, avec cette question de l'Union européenne, cette question de la dette grecque. Et finalement, est-ce qu'il y avait un personnage qui l'incarnait mieux qu'Alexis Tsipras, qui est né 4 jours après la fin de la dictature des colonels? J'ai pensé que non, donc c'est à la fois une biographie d'Alexis Tsipras et une tentative, une esquisse d'histoire grecque de 1974 à aujourd'hui.
Et on en dira un mot, une histoire qui n'est pas fine pour Alexis Tsipras, parce qu'il a 45 ans, autant dire qu'il a encore de belles années d'homme politique devant lui. Alors, je viens d'expliquer dans mon introduction que la Grèce et le Portugal avaient bien des points en commun. On peut en citer d'autres. L'un était à l'origine d'une civilisation, l'autre a découvert le monde. Ils sont deux pays méditerranéens, même si le Portugal n'a qu'une façade atlantique. Ils sont l'un et l'autre à la périphérie de l'Europe. Et cette année, à Lisbonne comme à Athènes, la saison touristique a été exceptionnelle, contribuant à la reprise économique. Une différence de taille, les frontières, Yves Léonard, elles sont figées depuis 800 ans au Portugal et elles ont évolué en Grèce au cours du siècle passé. C'est vrai que le Portugal, à ses frontières, ça n'a pas bougé depuis 800 ans.
Oui, c'est une des particularités. L'État-nation, si on veut parler avec un langage d'aujourd'hui, apparaît très précocement au Portugal. En fait, dès le XIIe siècle, un État se constitue avec des frontières qui sont quasiment celles qu'on connaît aujourd'hui depuis la deuxième moitié du XIIIe siècle, ce qui fait quand même une singularité à l'échelle de l'Europe et qui confère au Portugal aussi, et c'est pas inintéressant dans le débat actuel, par rapport aux questions des autonomies, des régions, etc., qui lui confère une certaine unité. C'est un État unitaire, avec une certaine décentralisation, mais qui n'est pas tiraillé par des contradictions ou des tensions régionalistes d'autonomie.
Ce qui n'est évidemment pas le cas de la Grèce, dont les frontières ont évolué au cours du siècle passé, bien évidemment. Tomáis Papaioannou.
Du XXe siècle, et non seulement ça, le Portugal est un pays océanique tourné vers l'Atlantique, tandis que la Grèce est un pays méditerranéen, un pur produit, et surtout que c'est l'Empire d'Orient contre l'Empire d'Occident, ce qui est un énorme décalage entre les deux pays. Mais par contre, on a eu des officiers, des militaires portugais qui ont officié en Grèce dans le 19e siècle. Je me rappelle juste des leçons d'histoire, un gars qui s'appelait Dalmeida, et il a laissé bien sûr après de la famille. Aujourd'hui, il s'appelle Almeidas.
Son nom était hellénisé.
Alors,
il y a aussi une, si on remonte un tout petit peu dans l'histoire, une différence. La Grèce a subi les affres de la Deuxième Guerre mondiale et d'une guerre civile qui lui a succédé, alors que le Portugal était l'un des rares pays épargnés par le conflit. Fabien Perrier, est-ce que ça, selon vous, contribue à modeler la physionomie des deux pays? Effectivement, en Grèce, on a un sens de la résistance et un parti communiste très important et très inféodé, qui a longtemps été très inféodé à l'Union soviétique. Et il faudra d'ailleurs attendre 1974 et la chute de la dictature des colonels pour que le pays reprenne un certain envol, un nouvel envol.
Oui, ça a beaucoup modelé la société, d'une part parce que la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout la guerre civile qui a suivi, a profondément divisé les familles. Donc ce moment a à la fois contribué à former le paysage politique tel qu'on en voit encore des subsistances. Le parti d'Alexis Tsipras, par exemple, Syriza, pour partie un parti descendant des résistants communistes, alors que aujourd'hui il y a un parti communiste traditionnel un peu dogmatique qui existe encore, qui s'appelle le KKE, parti communiste grec, mais c'est le parti Syriza qui, en usant de son histoire, mais en même temps réussissant à s'élargir, à s'ouvrir, à aller vers de nouvelles problématiques, c'est ce parti-là qui réussit aujourd'hui à conquérir l'opinion publique, puisque y compris aux dernières élections, il a toujours plus de 30% d'opinion favorable.
André Cochin-Pinta, j'expliquais au lendemain de la guerre, le Portugal n'a pas participé à cette guerre, ce qui a donné une continuité politique avec le dictateur Salazar qui était au pouvoir avant la guerre et qui est resté très longtemps après, qui a contribué peut-être à ce que le pays sommeille, s'endorme, en tout cas jusqu'à la révolution des œillets de 1974. Qu'en pensez-vous ?
Oui, je crois qu'il y a sans doute une différence avec la Grèce, c'est la longue durée de la dictature au Portugal. En fait, on peut dire que la Grèce a eu en fait, une dictature militaire qui a duré moins de 10 ans. Et si on considère qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la Grèce a eu un régime de démocratie limitée, puisque les communistes, bon, il y avait quand même pas mal de restrictions, mais c'était quand même un régime libéral-démocratique, enfin même si on peut limiter, le Portugal, au contraire, a souffert 40 ans de dictature. Et deuxième élément, je crois, très important, qui fait un peu la différence entre les deux, une dictature très associée à l'Atlantique et à un système colonial africain. Donc la Grèce, depuis la Deuxième Guerre mondiale, a été toujours plus proche de l'Europe, plus proche même de la communauté économique européenne que le Portugal, qui sans doute, même en tant que membre de l'OTAN, etc., mais toujours plus isolé de la vie politique européenne jusqu'à la transition démocratique aux années 70.
André Costa, alors on va prendre le contre-pied. En quoi le Portugal ressemble à la Grèce ?
Oui, d'abord je crois que le premier élément d'unification vient avec les transitions démocratiques des années 70, n'est-ce pas ? C'est en fait l'élargissement de l'Union européenne vers la Grèce, l'Espagne et le Portugal, et évidemment la transition démocratique sont les deux grands éléments d'unification, si j'ose dire, de ces trois pays de l'Europe du Sud. Après, il faut souligner aussi la dimension économique. Même si on parle beaucoup des grandes différences, crise politique pendant l'intervention de l'FMI, de l'Union européenne en Grèce, pas de crise politique dans le cas portugais, etc. Ce point de vue du développement économique, les données nous offrent au fond, l'économie grecque et l'économie portugaise sont à peu près, avec différence, mais sont presque tout le temps, depuis des années 70, à peu près au même niveau. Et les rapports, si j'ose dire, centre-périphérie, au niveau de l'économie allemande, française, etc., avec l'économie portugaise et grecque, c'est à peu près la même chose. Ça veut dire que les niveaux de développement économique de la Grèce et du Portugal sont très comparables.
Thomas Papadionaou, alors même question, en quoi la Grèce ressemble au Portugal et puis en quoi il se différencie?
Alors à part l'expérience traumatisante d'une jante, d'une dictature qui est la dictature des colonels ou pour la Grèce et pour l'Espagne et Salazar, et il y a aussi le culturel, c'est-à-dire des pays mélancoliques quelque part, la musique grecque, la musique portugaise se ressemble à cette mélancolie, à cette envie de raconter.
Entre Mélina Mercouri et le fado,
Mélina Mercouri, c'était pas une musicienne, mais était une actrice avant tout. Mais si, elle est musicienne dans le sens où elle chantait quelques chansons de Hadidakis. Mais c'est une musique qui a un ton un peu similaire dans le sens de la mélancolie. Et sont des chansons tristes plutôt. Et en Grèce qui domine aussi. Mais après, c'est l'économie, et je suis d'accord, c'est vraiment l'économie, et plutôt depuis l'entrée du Portugal et de la Grèce dans l'Union Européenne, plus ou moins dans les années 80
pour la Grèce, 86 pour le Portugal.
Similaire, donc leur trajectoire économique était plus ou moins la même, et bien sûr, le traumatisme de l'austérité imposée ces 10 dernières années était exactement similaire, avec une migration énorme au Portugal vers ses anciennes colonies peut-être, mais nous aussi, c'est la diaspora grecque vers les États-Unis, vers l'Allemagne, vers la France ou vers l'Australie aussi, une saignée, une vraie saignée. Et ça, ce sont les similitudes. Par contre, la différence, et si je parle, je me concentre juste sur la résolution de cette austérité, ces problèmes économiques, c'est que le Portugal a réagi avec une unité. Et ils disent, bon, on est dans cette galère-là, il va falloir serrer les coudes et surpasser ces problèmes. Les Grecs n'ont pas voulu s'unir et affronter un problème énorme qui les a fait couler. Et ça, c'est un grand décalage entre ces deux pays. Et je le vois même aujourd'hui, c'est-à-dire que les Portugais ont réussi à orienter leur économie vers les exportations, par exemple, et faire des gros efforts, des grandes... Nous, c'est impossible de parler d'une telle voie pour orienter notre économie qui est très très blessée vers les exportations, vers l'étranger en général, l'ouverture. Ça, c'est impossible. On a vendu les joyaux de la couronne, les ports chinois, par exemple, on essaye de vendre l'eau actuellement et c'est toujours vendre au plus bas prix, mais sans des retours d'argent.
Alors, on l'a dit, le Portugal rejoint l'Union Européenne en 1986, la Grèce en 1981. Pour les deux pays, qu'est-ce que ça représente, Yves Léonard, l'adhésion à l'Union Européenne et par exemple pour le Portugal? Est-ce que ça signifie une intégration dans un ensemble démocratique, la promesse d'une prospérité? Les deux ne sont pas évidemment incompatibles.
Oui, alors la première chose, ça s'inscrit dans un contexte qui est celui de l'après-révolution des œillets, de la transition. Ce qui n'était pas envisageable avant le devient, et le devient d'autant plus que c'est nécessaire pour la jeune démocratie de s'arrimer, de se consolider. Et le premier appel va être de nature un peu politique. Aidez-nous à nous consolider, à nous arrimer. Et cette jeune démocratie, qui pouvait basculer ou évoluer différemment, a eu ce recours à l'Europe. Ensuite, il y avait la dimension économique évidente, cette modernité et cette promesse de croissance, de rattraper un certain nombre de retards qui avaient été accumulés au temps de la dictature. Et puis, il y a un volet plus, sinon symbolique, mais où qui a trait à ce passé colonial. À partir du moment où le Portugal se retrouvait privé de cette projection ultramarine, et pour la première fois depuis plusieurs siècles, au moins depuis le 15e et le 16e siècle, il y avait de toute évidence dans ce basculement, comme Antonio Costa Pinto l'a rappelé tout à l'heure, le Portugal, pendant la dictature et très longtemps, était plutôt... tournait le dos un peu à l'Europe
et regardez
l'Atlantique. Et là, avec l'adhésion, évidemment, le Portugal redevenait pleinement un pays à la fois atlantique, cet héritage, mais aussi essentiellement européen, avec des promesses et des incitatifs de croissance et de rattrapage des retards accumulés. Donc, c'est ces trois volets qui ont joué, le volet politique, ce volet économique et ce volet géopolitique, en quelque sorte, qui ont permis au Portugal de devenir un membre à part entière. Et on a même dit à une époque, et c'était quelque part, c'était très ambivalent, le bon élève de l'Europe, comme on disait dans les années 1990. Eh bien, c'est très très important pour le Portugal encore aujourd'hui.
Fabien Perrier, Thomas Papaioannou nous expliquait à quel point évidemment la Grèce est aux confins des deux mondes, le monde occidental et le monde oriental. Qu'est-ce que ça veut dire l'adhésion à l'Union européenne? J'étais surpris quand on va en Grèce, que bien des Grecs nous disent, bah, quand on prend l'avion d'Athènes pour aller à Paris, Londres ou Francfort ou ailleurs, on dit on va en Europe. Qu'est-ce que c'est ce sentiment européen des Grecs? Est-ce qu'il existe?
Personnellement, je pense qu'il existe, parce que déjà les Grecs sont quand même très fiers de rappeler que l'Europe est d'abord un mythe grec. Ça renvoie aussi à une autre question sur, entre guillemets, l'identité grecque. C'est un peu cette idéalisation d'un passé glorieux et une façon de se regarder aujourd'hui dans le miroir avec un sentiment de culpabilité, de faute exercée pendant plusieurs décennies. Un petit exemple, justement, c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale, au moment du plan Marshall. Le plan Marshall est censé aider la Grèce à s'industrialiser et en réalité, cette aide financière permet d'abord de développer le petit commerce, la petite agriculture. Donc en fait, il y a des fonds qui ne sont pas tout à fait utilisés à ce pourquoi elles étaient destinées. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, pour revenir sur cette question européenne, c'est que quand la Grèce est entrée dans l'Union européenne, ce n'était pas un pays très industrialisé et en réalité, le niveau de vie, le niveau de compétitivité de la Grèce n'était pas du tout adapté au reste du marché européen. Et pendant des décennies, la Grèce a essayé de faire croire qu'elle rattrapait le niveau de vie et de production de l'Union européenne. La Banque Centrale Européenne a aussi analysé les comptes grecs et a souscrit pendant longtemps à cette analyse, jusqu'au jour où on s'est rendu compte que c'était pas tout à fait la vérité.
Est-ce que vous voulez dire par là, Fabien Perrier, qu'on vit assez facilement d'illusions en Grèce?
Je pense qu'on ne vit pas forcément plus d'illusions en Grèce qu'ailleurs dans le monde. Je pense qu'en revanche, pour le symbole, il était bon que la Grèce soit dans l'Union européenne et qu'on a peut-être été un peu plus laxiste, on va dire, avec la réalité économique de la Grèce.
Alors, Antonio Costa-Pinto, est-ce qu'il y a eu ce même laxisme au Portugal? Alors, c'est vrai que l'adhésion à l'Union européenne, ça a créé évidemment une plus grande prospérité, une certaine euphorie de consommation. On a dit qu'une des raisons pour lesquelles le Portugal a été très touché par la crise, c'est que le pays et les Portugais vivaient beaucoup à crédit.
Oui, ça veut dire les Portugais, pendant les années 80, étaient très optimistes, ce point de vue évidemment du développement économique et surtout de l'association entre développement économique et adhésion à l'Union européenne. Mais le Portugal et d'une certaine manière la Grèce, mais surtout dans le cas portugais, avec l'élargissement à l'Est de l'Union européenne, les Portugais, au fond, ont été un peu perdants de cette globalisation européenne, ça veut dire de ce procès d'élargissement de l'Union européenne. Et il y a quand même des problèmes de structure de l'économie portugaise. Par exemple, un peu comme la Grèce, le Portugal a récupéré ce point de vue économique après la crise et le boom du tourisme. C'est vrai, c'est l'orientation de l'économie portugaise vers l'exportation, etc. Mais il y a des limites, comme la productivité, qui n'est pas très élevée. Comme l'éducation, le Portugal souffre encore beaucoup de problèmes au niveau de l'éducation de sa main-d'œuvre. Et donc, il y a quand même des limites difficilement franchissables pour l'économie portugaise. Et je prends un peu pour l'économie grecque. Je voulais seulement donner un exemple de similitude, en fait. C'est le capital chinois. Parce que si c'est vrai que pendant la crise, les Chinois ont acheté les ports, grecque. Dans le cas portugais, c'est l'eau et l'électricité. Donc, c'est une ironie, mais c'est vrai, avant, la Grèce et le Portugal ont été au fond à l'avant-garde de la pénétration du capital chinois pendant la crise en Europe.
Entre la Grèce et le Portugal, bien des points communs, quelques différences aussi. On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite sur RFI.
Spotkania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stawrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. La Grèce et le Portugal ont bien des points en commun. Ce sont deux pays de l'Europe du Sud à la population comparable qui ont connu par le passé des dictatures et pour lesquelles l'adhésion à l'Union Européenne a été décisive. Plus récemment, les deux pays ont durement subi la crise de 2008-2009 et ont été sous l'emprise de la Troïka. La Grèce comme le Portugal ont retrouvé depuis, avec quelques différences, une relative santé économique. Originalité dans une Europe dominée par la droite, Athènes comme Lisbonne avaient porté au pouvoir des gouvernements de gauche, mais lors des dernières élections cet été, la Grèce est passée à droite tandis que le Portugal restait à gauche. Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Thomas Papayonao est correspondant à Paris de la télévision grecque. Fabien Perrier, correspondant en Grèce pour Libération et le quotidien suisse Le Temps. Il vient de publier Alexis Tsipras, une histoire grecque aux éditions François Bourin, disponible dans les bonnes librairies à partir du 6 novembre seulement. Il est en ligne d'Athènes. Yves Léonard, historien, enseignant en Sciences Po. Il est le co-auteur de Histoire du Portugal aux éditions Chandaigne, et Antonio Costa Pinto est professeur de sciences sociales à l'Université de Lisbonne. Il est en ligne de Lisbonne. Alors, on a expliqué dans la première partie de l'émission qu'évidemment, l'adhésion à l'Union Européenne en 81 pour la Grèce, 86 pour le Portugal a été déterminante. Ils ont arrimé ces deux pays à l'Union Européenne, un pôle démocratique, et puis ça a été aussi l'occasion d'une prospérité pour les deux pays. Et on peut dire qu'il y a eu un point d'orgue pour les deux pays de cette euphorie de consommation, de cette façon d'exister sur la scène internationale. Ça a été pour le Portugal l'exposition mondiale de 1998, l'expo comme on disait à Lisbonne, et puis évidemment en Grèce, les Jeux Olympiques d'Athènes de 2004. Ça a été, Yves Léonard, à la fois un summum et le début de quelque chose qui allait changer en même temps.
Oui, rétrospectivement, on se rend compte qu'effectivement, cette Expo 98 à Lisbonne a marqué une espèce d'acmé, une espèce de point culminant, et qu'ensuite, les années qui ont suivi au début du millénaire, on les a appelées, certains les ont appelées les années piteuses, après les années glorieuses. C'est vrai qu'il y a eu un changement à ce moment-là, à la fois parce que la croissance s'est ralentie, et puis cet effet un petit peu, cette impulsion extrêmement forte, extrêmement brutale qui avait eu lieu avec l'adhésion à l'Europe, cette volonté de s'arrimer, de rattraper les retards, de s'intégrer au club de l'euro et d'être membre fondateur de l'euro. Bref, toute cette dynamique qui a été mise en place a été payée aussi au prix fort par un certain nombre de restructurations de secteurs de l'économie qui, à ce moment-là, un peu comme la Grèce, n'avaient pas les niveaux requis et il y avait des retards tels que ça a été assez dur. Donc à la fin des années 1990, on a observé à la fois un ralentissement de la croissance et avec ce qui allait se mettre en place quelques années plus tard, l'élargissement, comme ça a été rappelé tout à l'heure, l'élargissement qui a été aussi vécu par les Portugais comme une espèce de dilution. Et je prendrai un exemple un petit peu sportif. En 2004, ce n'était pas les Jeux Olympiques, mais avait lieu au Portugal le championnat d'Europe de football, qui a été gagné par la Grèce, sur le Portugal, qui était le pays organisateur. Et ça a été très traumatisant pour les Portugais. Et symboliquement aussi, ça marque une étape très importante. Ça a été une rencontre sportive, mais que les Portugais ont très très mal vécu pour avoir cru jusqu'au bout qu'ils allaient enfin remporter une grande compétition internationale sur leur terre après avoir organisé et plutôt bien avoir construit des stades, avoir construit des infrastructures, ce qui était un peu le maître mot dans les années 1990, eh bien ça n'a pas fonctionné. Et ça a été un peu, sinon une rupture, mais une étape importante.
Thomas Papayonao, alors évidemment la victoire de la Grèce au football en 2004, mais 2004 ce sont les Jeux Olympiques, c'est un moment phare dans l'histoire de la Grèce parce que ça se passe remarquablement bien dans des stades magnifiques. magnifique, la fête est très très belle, mais quand les lumières s'éteignent, c'est un petit peu le début de la fin, et on voit aujourd'hui ces stades rouillés qui ne sont pas utilisés, et c'est un petit peu très symbolique de l'histoire de la Grèce, à savoir, on a brillé un moment et après, on ne savait plus trop quoi faire de ces installations.
C'est exactement 2004, était le moment le plus glorieux de la Grèce post-dictature, si j'ose dire. Vraiment, on s'est cru vraiment au niveau de l'Allemagne, au niveau des plus grands, des plus riches de l'Europe, parce que bien sûr, entre-temps, il y avait le passage à l'euro, hein, la Grèce était membre aussi. Et après, c'est fut la dégringolade, mais la plus incontrôlée possible et imaginable. Et on est arrivé à la crise et c'était là où tout le monde a réalisé qu'en fait c'était juste un rêve et rien de plus. On a su entre temps qu'ils ont maquillé les comptes, ils ont maquillé les budgets pendant un fort moment pour pouvoir trouver ces 12 milliards qui a coûté officiellement en tout cas les Jeux Olympiques de Grèce. Et là en 2009, oups, tout le monde s'est rendu compte qu'en fait c'était une Grèce fictive et qu'en fait on était tous coupables parce que la fameuse phrase pendant la crise économique, c'est d'un ancien ministre grec, Pagalos, qui a dit on les a mangés, l'argent, on l'a mangé tous ensemble. Ça a traumatisé le pays. Plusieurs personnes de la population ont rejeté ça. Mais au fond, on savait tous que quelque part, il y avait un fond de réalité, de vérité dessus. Et la Grèce était nue. Devant sa réalité. Et c'est une réalité, elle était aussi bien sûr fautive, hein, bien sûr, évidemment, mais aussi elle a réalisé que les banques étrangères ont escroqué le pays et tout le monde cachait la vérité à tout le monde et tout le monde vivait heureux, mais finalement, tout était un rêve et la réalité est très, très dure à avaler, à digérer et actuellement, on essaye de nier une réalité, c'est-à-dire que le pays est en banqueroute. Les pays n'existent pas comme... Enfin, les 7 ans glorieux ne viendront plus en Grèce. Et il y a encore des gens en Grèce qui croient qu'on va revenir à cette prospérité.
Antonio Costa Pinto, c'est un point commun entre la Grèce et le Portugal. Quand la crise de 2008-2009 arrive, les deux pays les abordent avec une certaine fragilité ou une grande fragilité. Et pour les deux pays, c'est une cure d'austérité très grave qui commence. Alors, on peut rappeler en quelques mots ce qui s'est passé en 2008-2009 au Portugal, à partir de 2008-2009, une baisse des pensions, une baisse du salaire minimum, une hausse des impôts, c'est un peu tout ça. Ça a été une vraie cure d'austérité qu'on n'a pas connue, par exemple, en France ou en Allemagne.
En fait, du point de vue économique, la crise, enfin, le Portugal et la Grèce souffrent à peu près les mêmes mesures d'austérité, n'est-ce pas, de l'Union européenne et du Fonds monétaire international, etc. Mais là, la réponse est différente. Parce que dans le cas portugais, et c'est étonnant en fait, c'est une coalition de centre-droite qui gère cette austérité avec une stabilité politique incroyable. Je dirais même que probablement une des différences entre la Grèce et le Portugal est justement dans l'efficacité de l'État, si j'ose dire. Ça veut dire, dans le cas du Portugal, l'État a beaucoup plus d'autorité, du point de vue des Portugais, n'est-ce pas ? Je dirais même que la société civile au Portugal est peut-être plus faible que la société civile grecque. Pourquoi ? Parce que dans le cas grec, on assiste à une crise politique importante, mouvements sociaux, etc. Des partis politiques même extrémistes qui arrivent, c'est la montée de l'extrême droite, etc. Dans le cas portugais, rien de spécial. C'est une coalition, en fait, de centre-droite qui organise et dirige les mesures d'austérité. Et en fait, la vengeance électorale des Portugais a été au fond, en 2015, donc après la crise, de donner une très faible, initialement, majorité à la gauche, puisqu'il faut jamais oublier qu'après 4 ans d'austérité organisée par une coalition de centre-droite, il gagne les élections en 2015. Le Parti Socialiste a l'intelligence politique de négocier avec les partis à sa gauche, avec les communistes et avec le bloc de gauche, à peu près le parti de la même famille politique de Syriza au Portugal, d'organiser justement un gouvernement.
Fabien Perrier, Antonio Costa Pinto l'a bien expliqué, hein, commencé à bien expliquer la différence entre la Grèce et le Portugal. Évidemment, une austérité encore plus dure en Grèce qu'au Portugal. Je crois que c'est le pays qui a le plus souffert au sein de l'Union européenne de cette crise, avec la mise sous tutelle des deux pays par la Troïka, c'est-à-dire la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI. Mais autant c'est le Parti socialiste classique, c'est-à-dire un parti social-démocrate qui émerge au Portugal, en Grèce, c'est l'irruption de Syriza et d'Alexis Tsipras.
Tout à fait, mais je pense que déjà, ça s'explique par les déclarations, justement, des dirigeants grecs, notamment du PASOK. Ils ont dit...
Le PASOK, c'est le Parti social-démocrate
grec. Le Parti social-démocrate grec, le Parti social-libéral qui devenait de plus en plus un parti social-libéral. Les différents ministres du PASOK ont expliqué ou ont voulu croire que les Grecs avaient tous profité, nous avons tous mangé, comme l'a rappelé Thomas. Il faut quand même se souvenir qu'il y en a quelques-uns qui ont mangé un peu plus que d'autres, même beaucoup plus que d'autres. La corruption, ce n'est pas l'affaire de la population, ce n'est pas l'affaire du salarié qui travaille au quotidien, ce n'est pas l'affaire du petit employé qui va tous les jours au travail. La corruption, c'est ce que révèlent les affaires comme l'affaire Siemens, comme l'affaire Novartis, c'est l'affaire de gens qui sont déjà à des postes de pouvoir ou tout du moins qui font partie d'une catégorie de la population qui, à la base, a un peu plus que les autres. Je pense que ça, c'est très important parce que quand on relit aujourd'hui, par exemple, le rapport d'audit de la dette ou ce qu'explique très bien l'ancien député européen Lim Wong-Nok dans son livre qui s'appelle La Troïka, on voit qu'il y a eu un récit pour faire accepter par la population les mesures d'austérité, mais que les chiffres montrent que ce récit n'est pas nécessairement juste. Parce que je pense qu'il faut bien comprendre que les premiers qui se sont enrichis sur la crise, ce sont les banques françaises et les banques allemandes. Or, les mesures d'austérité ont eu comme premier effet de désengager l'exposition des banques allemandes à la dette publique grecque, mais elles ont eu pour la population grecque, donc ceux qui n'avaient pas nécessairement profité de la corruption, comme effet de voir les salaires baisser, les pensions ont été diminuées de 40% en moyenne, bref, la population a sacrément souffert des mesures d'austérité, et ce phénomène explique aussi l'émergence de Syriza, c'est-à-dire que Syriza, à la base, qui est un petit parti qui s'appelle Synaspismos, était présent dans la rue, aux côtés des manifestants, dénonçait depuis plusieurs années le tournant que prenait la Grèce, et au fur et à mesure que la population a vu son niveau de vie se dégrader considérablement, elle s'est tournée vers le parti qui n'avait jamais été aux affaires, qui n'était pas un parti qui avait donc bénéficié de cette corruption sous les différentes formes qu'elle a pu emprunter, et qui paraissait être un parti qui allait pouvoir essayer d'appliquer une politique neuve, une politique alternative.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, la Grèce et le Portugal. L'un est passé à droite, l'autre est resté à gauche. Nous sommes avec Thomas Papagiannou, correspondant à Paris de la télévision grecque, avec Fabien Perrier, correspondant en Grèce pour le journal Libération et le journal suisse Le Temps, avec Yves Léonard, il est historien et enseignant à Sciences Po, et avec Antonio Costa Pinto, il est professeur de sciences sociales à l'Université de Lisbonne. Nous allons faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Vincent Barros.
Bonjour Daniel.
Vous êtes le correspondant de Courrier International à Lisbonne, et le Portugal qui ne manque pas de particularités est par exemple l'un des rares pays européens à ne pas avoir généré un parti populiste d'extrême droite malgré la crise.
Oui Daniel, en fait l'article de Publico qu'on a publié en début de mois dans Courrier International, qui est écrit par Nuno Severiano Teixeira, qui est un universitaire, un ancien ministre de la Défense socialiste, explique que le populisme sommeille en quelque sorte au Portugal, mais il ne se traduit pas dans les urnes puisque les conditions ne sont pas réunies pour qu'il s'exprime électoralement et donc qu'il pèse politiquement. Et il donne plusieurs raisons à cela. D'abord l'électorat populiste portugais, qui peut avoir des positions xénophobes, anti-Union européenne, anti-mondialisation, vote majoritairement pour la gauche. gauche, justement parce que les partis de gauche ont longtemps tenu ou tiennent encore des discours eurosceptiques, anti-mondialisation. Au pire de la crise et jusqu'en 2015, le PS avait par exemple pris un virage populiste. Les dirigeants socialistes défendaient le non-paiement de la dette publique. Résultat, ils ont su capitaliser sur le mécontentement suscité par les cures d'austérité. Depuis, l'économie du pays va mieux et donc les électeurs ont décidé de reconduire la gauche au pouvoir lors des dernières législatives.
Alors l'une des raisons aussi qui explique pourquoi le Portugal reste hermétique au populisme, c'est l'immigration. Elle est très faible au Portugal.
Tout à fait. En fait, le Portugal, en raison de sa situation géographique excentrée, se trouve à l'écart des grands flux migratoires. Le taux d'immigrés dans la population est l'un des plus bas de l'Union européenne. Par ailleurs, le pays mène plutôt une bonne politique d'intégration. La communauté musulmane, par exemple, est peu nombreuse et bien intégrée. Et l'article précise que le Portugal n'a jamais connu d'attentats terroristes. Donc forcément, ça réduit la marge de manœuvre du discours d'extrême droite xénophobe et islamophobe qu'on peut entendre, par exemple, en Italie avec Salvini ou en France avec Le Pen. Et sur d'autres thèmes chers aux populistes, comme la corruption, le Portugal s'en sort plutôt bien. Selon l'indice de perception de la corruption établi par l'organisation Transparency International, le Portugal est même le meilleur élève en Europe du Sud. Et par ailleurs, l'Europe, c'est une tradition, a toujours bénéficié d'un fort soutien dans l'opinion publique portugaise.
Merci Vincent Barros, en direct de Lisbonne. Vous êtes le correspondant de Courrier International au Portugal. Courrier International, l'hebdo et courrierinternational.com, le site Courrier International qui a consacré récemment un numéro spécial au Portugal, titré « Le nouvel Eldorado ». Quand revient donc le temps des élections, cet été en Grèce et cet automne au Portugal, Alexis Tsipras de Syriza est battu par la nouvelle démocratie de Kyriakos Mitsotakis, tandis que le parti socialiste d'Antonio Costa les remporte haut la main, sans atteindre toutefois la majorité absolue. Tomáš Papagiannou, pourquoi Syriza a été battu? Et évidemment, je poserai la question à Yves Léonard, pourquoi Antonio Costa a gagné ces élections?
Parce que Tsipras a mené finalement une politique comme les autres partis. Les Grecs, comme l'a dit bien Fabien Perrier, ils ont fait leur petite révolution en janvier 2015 en votant pour un tout petit parti qui s'appelle Syriza, et avec la promesse qu'une nouvelle politique allait émerger. Et ce qui n'était pas le cas, ils étaient battus, ils ont signé un mémorandum, c'est-à-dire un accord avec la Troïka, encore plus dur que les précédents, et ils ont mené une politique très austère, très drastique envers les retraités, etc. Et donc les Grecs se sont dit, puisque c'est comme ça, il n'y a aucune différence entre les autres partis, et finalement peut-être les autres pourraient éventuellement faire un peu mieux avec la même politique. Et donc la droite a gagné avec le slogan « Revenons à la normalité ». Personne ne sait exactement définir ce que c'est que la normalité. Est-ce le régime avant la crise, qui n'était pas vraiment le bonheur, hein, on l'a tous condamné.
Comme vous l'avez rappelé, un régime qui a trafiqué ses comptes.
Hein. Exactement, la grande corruption, un capitalisme d'État avec les oligarques et qui ont...
Un clientélisme très grand.
Un clientélisme, les trois familles et la Sainte Trinité, les Papandreou, Mitsotakis et Karamanlis, qui ont régné sur le pays depuis le 20e siècle jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et là, voilà, ils ont voté pour une famille, Mitsotakis, parce que j'ai dit, il y a le premier ministre Mitsotakis, Kyriakos Mitsotakis, mais aussi le maire d'Athènes, son neveu, Kostas Bakoyannis. Donc voilà, on est revenu à la normalité quelque part. Mais si on regarde bien les chiffres des électoraux, enfin les résultats, Tsipras n'a pas vraiment perdu comme on le croyait.
Oui. Hein. Son score est autour de 30%, c'est très honorable.
C'est très honorable, et surtout quand on voit la réserve de vote pour le parti de droite, où là, il doit vraiment séduire l'électorat de l'extrême droite pour pouvoir regagner dans les prochaines échéances. Vous voyez, donc il y a cette flou qui fait que peut-être, et c'est fort probable, que Tsipras finalement, au bout de 4 ans, il va revenir au pouvoir.
Et il n'a que 45 ans, donc l'avenir politique est devant lui. Yves Léonard, alors pourquoi, à l'inverse, Antonio Costa, pour le Parti Socialiste, a gagné ses élections haut la main?
Ça tient à plusieurs facteurs. D'abord, il pouvait se prévaloir d'un bilan sur les 4 années de la mandature, qui était un bilan positif. Il y a bien sûr des zones d'ombre et des difficultés, mais la croissance est revenue, un certain nombre d'éléments positifs, la relance par la demande a été efficace, les salaires ont augmenté. Bref, un certain nombre d'indicateurs et la réduction du déficit public de l'État aussi, qui est apporté à son crédit. Donc en termes de bilan, il a pu s'en prévaloir et d'ailleurs a fait une campagne très neutre et assez peu virulente, capitalisant sur ce bilan. Bilan économique, bilan aussi en termes politiques, de stabilité. Car cette alliance un peu étrange qui a pris corps à l'automne 2015, qui est passé dans le vocabulaire la gérigance.
C'était, on peut traduire en français, le bidule,
oui,
le machin.
Oui, hein. Cette espèce d'attelage un peu brivalent.
Alors il faut expliquer que Antonio Costa, pour le Parti Socialiste, n'avait pas la majorité. Voilà. Il a été soutenu au Parlement par deux partis. Le bloc de gauche, c'est un peu la France Insoumise ou Podemos, c'est un petit peu cet voilà. univers. Et le Parti communiste portugais.
Voilà, il y a eu une alliance programmatique sur des éléments écrits entre le Parti Socialiste et le bloc de gauche, et entre le Parti Socialiste et le Parti communiste, qui a permis, avec un gouvernement qui avait tous les risques d'être fragile, eh bien, de gouverner dans la stabilité pendant 4 ans. Et donc, au moment de se présenter devant les urnes, eh bien, Antonio Costa, qui en plus est un homme particulièrement habile et qui dégage beaucoup d'empathie, a pu se prévaloir à la fois d'une reconnaissance internationale sur la scène européenne et de résultats sur la scène intérieure. Et d'ailleurs, tous les résultats intermédiaires, les élections locales, municipales à l'automne 2017, les élections européennes au mois de mai, avaient donné tous les signes indicateurs qu'il y aurait cette victoire du Parti Socialiste. Mais cette victoire du Parti Socialiste, il faut aussi la mettre en perspective au regard de ce qu'on appelait la gérigance. C'est aussi la gérigance, quelque part, qui a été reconnue dans les urnes au début du mois d'octobre. Car si le Parti Socialiste n'a pas obtenu la majorité absolue, qui était, sans le dire, un des objectifs avoués, c'est aussi parce que, notamment le bloc de gauche, a consolidé sa position. Dans l'électorat, il apparaît aujourd'hui comme le troisième parti politique au Portugal. Donc, c'est une victoire, bien sûr, d'Antonio Costa et du Parti Socialiste, mais aussi d'une formule dans laquelle les Portugais, une majorité de Portugais, se sont reconnus à travers cette gérigança. Et puis, même s'il y a une grande stabilité, je sais qu'Antonio Costa Pinto a beaucoup travaillé sur ces questions, il vous le dira mieux que moi, mais il y a une forme de stabilité du système, de résilience du système politique portugais. On voit bien que les deux partis clés, le Parti Socialiste de centre-gauche et le Parti Social-Démocrate de centre-droite, sont toujours en situation de contrôler les 2/3 à peu près des
sièges. Ce qui est relativement original en Europe.
Ce qui est relativement original. Là, cette fois-ci, il y a eu un effritement de deux des partis qui constituaient un peu le système politique portugais depuis la révolution des œillets. Le Parti communiste qui continue de s'éroder et de voir ses chiffres, ses résultats diminuer. Et puis la formation de droite d'origine démocrate chrétienne, le CDS, qui a obtenu son pire résultat électoral depuis 1974 et qui est en proie justement à des divisions et à cette tentation de radicaliser son discours, concurrencé par l'arrivée d'une formation du droit radical populiste Chegue, qui a fait élire un député. Ça a évidemment focalisé l'attention et ça pose aussi un enjeu, un défi considérable pour la droite parlementaire et notamment le CDS.
Alors, Antonio Costa Pinto, un point commun entre la Grèce et le Portugal, c'est évidemment une certaine reprise économique. Elle est plus forte au Portugal qu'en Grèce, notamment grâce à cause du boom touristique. La Grèce a reçu 32 millions de visiteurs en 2018. C'est un pays qui compte 10 millions d'habitants. Je ne sais pas combien le Portugal a reçu de visiteurs en 2018, mais il suffit de se balader dans les rues de Lisbonne. On entend plus facilement le français, l'anglais, l'allemand, le néerlandais que parfois le portugais. Alors c'est évidemment une chance pour ces deux pays, c'est aussi une forme de fragilité, car c'est vrai que l'hôtellerie, les services, l'immobilier se développent, mais le revers de la médaille, c'est que à Athènes comme à Lisbonne, il devient de plus en plus difficile pour les Athéniens et pour les Portugais de se loger dans leur propre ville. C'est une fragilité d'avoir un boom touristique à ce point.
Oui, sans doute. D'abord, évidemment, le développement du tourisme à avoir avec deux facteurs. Un, le procès de dévaluation interne, puisque le Portugal est devenu moins cher, évidemment, pour le tourisme européen. Et aussi à cause, évidemment, des problèmes politiques en Turquie, en Afrique du Nord, etc. Mais je voulais ajouter un autre facteur qui a contribué aussi pour la croissance économique au Portugal, c'est l'investissement, surtout au niveau urbain, évidemment, d'une partie importante quand même de l'élite qui a commencé à acheter à Lisbonne, des Brésiliens, des Italiens, des Français. Et donc, le problème maintenant urbain, par exemple, à Lisbonne, c'est pas seulement à cause du tourisme de masse, mais aussi par cet investissement chinois, brésilien, italien, français, qui fait beaucoup de pression sur les centres historiques de Lisbonne et de Porto, et qui évidemment pose beaucoup de problèmes à la société portugaise.
On a bien compris, Antonio Costa Pinto. Fabien Perrier, vous allez avoir le mot de la fin, mais vous avez 30 secondes pour l'avoir, ce mot de la fin. Est-ce que le Portugal est un modèle pour la Grèce ?
Je pense que y a un point commun effectivement qui est le tourisme entre la Grèce et le Portugal, avec les problèmes, les failles qui ont été relevées juste avant. Mais il y a une différence fondamentale qui est la base productive. Aujourd'hui, la Grèce n'a quasiment plus de base productive. Elle ne produit pas grand chose. Et c'est pas avec la petite agriculture qu'elle a, même si elle est importante pour la population grecque, c'est pas là-dessus que la Grèce peut se développer. Et c'est ça le principal problème. C'est comment la Grèce peut recréer aujourd'hui une économie avec une production propre. Et pour l'instant, j'ai l'impression que personne n'a trouvé la solution.
C'est vrai qu'on peut trouver des produits portugais dans son supermarché en France, alors que évidemment, il est bien difficile de trouver un produit grec dans son supermarché. Merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Je rappelle le titre de vos ouvrages. Fabien Perrier, Alexis Tsipras, une histoire grecque chez François Bourin, et une histoire du Portugal par Yves Léonard et Albert-Alain Bourdon aux éditions Chandaigne. Réalisation Guillaume Munier avec Vincent Barros de Courrier International. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe podcast, deux possibilités, le site RFI.fr ou l'appli RFI Pure Radio. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Lesescalou, où que vous soyez, à Lisbonne, Athènes, Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.